La terre, elle brille, en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Bonjour Michel, alors on va commencer cette chronique astro par la disparition d'un astronaute du programme Apollo.
Oui, bonjour Alizé.
Bonjour.
Cette information remonte à Mars, mais je n'avais pas pu la donner la dernière fois en raison d'une actualité assez chargée. Tom Stafford est décédé le 18 mars à l'âge de 93 ans. Après une première mission comme pilote de la capsule Gemini 6 en 1965, puis Gemini 9 en 1966, il avait été sélectionné pour le programme lunaire Apollo et sera le commandant de la mission Apollo 10, répétition générale de la mission historique Apollo 12 deux mois plus tard. Avec toutes les manœuvres, mise en orbite lunaire d'un équipage, la deuxième fois après Apollo 8 six mois plus tôt, le transfert de deux astronautes dans le module lunaire pour la première fois autour de la Lune, puis sa descente jusqu'à seulement 15 km de la surface. On peut dire qu'ils étaient à deux doigts du premier alunissage d'un équipage. Puis la remontée pour le rendez-vous orbital avec la capsule Apollo avant le retour sur Terre. Pendant cette phase de remontée, le module lunaire s'était mis en vrille, et c'est grâce au sang-froid de Stafford que la situation avait pu être rétablie. On peut constater avec ce petit rappel historique à quel point le déroulement du programme Apollo dans les années 1960-70 a été plus rapide que celui de l'actuel programme Artemis de retour vers la Lune. Il n'y avait eu qu'un peu plus d'un an entre le premier tir de la fusée Saturne V et l'envoi d'un équipage en orbite autour de la Lune, puis seulement 6 mois avant les premiers pas sur le sol lunaire. Alors qu'on attend la première mise en orbite lunaire d'un équipage Artemis pour septembre 2025, soit presque 3 ans après le premier tir réussi le 16 novembre 2022 du lanceur SLS qui sera utilisé pour cette mission, et il faudra encore patienter un an de plus pour espérer voir des astronautes de retour sur la Lune avec la mission Artemis 3 prévue en septembre 2026. Mais les enjeux géopolitiques, les risques pris par les équipages et l'énorme budget consacré à la conquête spatiale à cette époque ne sont plus comparables avec le contexte actuel. Malgré leur grand âge, il reste encore 8 astronautes d'Apollo. Bill Anders, qui a orbité autour de la Lune avec Apollo 8, ainsi que Jim Lovell, participant à la même mission, avant de se retrouver naufragé d'Apollo 13, avec Fred Hayes, toujours là aussi. David Scott, qui s'est posé sur la Lune avec Apollo 15, 2 ans après être resté en orbite lunaire avec Apollo 9, pendant que Rusty Schweikart, je pense, lui aussi toujours vivant, pilotait le module lunaire. Charlie Duke, qui a aluni avec Apollo 16. Harrison Schmitt, géologue de la dernière mission Apollo 17. Et le plus célèbre, Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir foulé le sol lunaire lors de la mission historique Apollo 11.
La France investit dans des petites fusées ?
Oui, à côté des grands lanceurs comme l'européenne Ariane 6 en cours de préparation à Kourou pour son premier tir prévu fin juin, une fusée capable d'emporter 10 à 20 tonnes selon la configuration, il y a besoin aussi de lanceurs plus petits pour transporter des charges plus modestes. Lors de la dernière visite du président Macron au Centre spatial guyanais, le 26 mars dernier, le CNES a annoncé les 4 lauréats d'un appel à projet visant à développer des petits lanceurs dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Les entreprises récompensées recevront en tout 400 millions d'euros, dont un acompte tout de suite et le solde une fois la mission accomplie, c'est-à-dire la mise en orbite de petites charges comme des satellites du CNES, de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, ou de laboratoires universitaires. À titre de comparaison, le développement d'Ariane 6 par Ariane Group a nécessité dans les 4 milliards d'euros de subventions européennes, soit 10 fois plus. La plus grosse part du budget est attribuée à Maya Space, une filiale d'Ariane Group basée en Normandie et qui compte déjà 140 employés. Elle vise la mise en orbite polaire d'une charge d'une tonne et demie et utilisera la base de Kourou pour les lancements de sa fusée Maya, partiellement réutilisable, d'une hauteur de 50 mètres, qui devrait voler en 2026. Idem pour Sirius Space Services, basée en Île-de-France, un peu moins ambitieuse avec une charge limitée à 700 kg, propulsée par ses fusées Sirius, réutilisables, de 28 mètres. Pour sa part, Latitude, une start-up basée à Reims, développe un micro-lanceur Zephyr de 19 mètres, d'une capacité de seulement 50 kg en orbite basse, hein, ça veut dire 400 km à peu près comme l'ISS, avec en principe un premier tir prévu dès cette année. Et enfin, le quatrième lauréat est régional, puisque c'est au Hayan que se trouve la start-up Hyperspace. Alors, je suppose que ça se prononce comme ça, mais c'est un acronyme qui s'écrit HYPR Space, qui signifie en fait Hybrid Propulsion for Space, qui remporte la plus petite subvention. Contrairement à ce qu'on connaît dans le domaine automobile, la notion de moteur hybride n'indique aucunement une propulsion électrique, mais un moteur combinant des carburants à l'état liquide et solide, ce qui serait un élément de sécurité car ne provoquant pas d'explosion en cas de défaillance. Son lanceur de 16 mètres est baptisé avec humour Baguette 1. Mais si on prononce à l'anglaise l'acronyme tiré de son nom complet, Orbital Baguette 1, on obtient Obi-Wan, qui est certainement un clin d'œil à une saga cinématographique bien connue. Le premier vol est envisagé pour 2026 avec des moteurs réutilisables avant que l'ensemble du lanceur puisse le devenir. Pour ceux qui auraient les compétences requises en avionique, en propulsion ou en structure composite par exemple, le site en ligne de la société indique un certain nombre de postes à pourvoir, tous situés au Hayan.
Le contact a été rétabli avec Voyager 1.
Voilà, en décembre, j'avais parlé de la sonde Voyager 1, lancée à la fin des années 1970 pour la mission historique surnommée Grand Tour, lui ayant permis avec sa jumelle Voyager 2 de rendre visite à toutes les planètes géantes extérieures, de Jupiter jusqu'à Neptune, et leur cortège de satellites très mal connus jusqu'alors. Ensuite, elles ont poursuivi leur trajectoire, les emportant toujours plus loin aux confins du système solaire, faisant de Voyager 1 l'engin spatial le plus éloigné de nous, à plus de 24 milliards de kilomètres, ce qui nécessite aux ondes radio plus de 22 heures pour effectuer le trajet, soit environ 45 heures pour un aller-retour, car il est encore possible de communiquer avec elles plus de 45 ans après leur lancement. À peu près la moitié de leurs instruments scientifiques étant encore opérationnels, elles continuaient à nous renseigner sur leur environnement qui ressemblait de plus en plus à l'espace interstellaire. Sauf que depuis le 14 novembre dernier, les messages bien formatés que nous envoyait Voyager 1 ont fait place à une suite de 1 et 0 sans signification qui se répète en boucle comme si la sonde buguait, selon une annonce de la NASA datée du 12 décembre. Bien entendu, l'agence spatiale met tout en œuvre pour essayer de régler ce problème et un petit espoir s'est fait jour le 3 mars, car suite à une nouvelle tentative de communication avec l'envoi d'une commande le 1er mars, le message reçu a permis de reconnaître dans la réponse des données du système de vol au milieu des autres données incohérentes. Eh bien, on vient de franchir une nouvelle étape dans la résolution du problème, car lundi, le 22 avril, la NASA a annoncé avoir reçu enfin un message clair. En analysant les données reçues en mars, les ingénieurs avaient fini par comprendre que le problème venait d'une des puces d'un ordinateur de bord. Cela n'a rien de surprenant si on songe que l'électronique embarquée à bord est très ancienne, datant des années 1970, et a passé des dizaines d'années dans l'espace, soumise au bombardement des rayonnements qui sont très nocifs pour les circuits intégrés. Comme toute réparation est impossible, l'équipe a donc décidé de déplacer le code contenu dans cette mémoire vers un autre emplacement, sauf qu'il n'en existait aucun assez grand et qu'il a fallu le couper en deux pour le répartir sur deux puces différentes. Quand on pense au tracas que représente le plantage de l'ordinateur posé sur notre bureau à portée de main, on peut admirer l'exploit que représente cette opération, réalisée à plus de 24 milliards de kilomètres de distance et avec des communications prenant plus de 22 heures de délai. Les commandes pour exécuter cette réparation ont été envoyées à Voyager 1 jeudi 18 avril et samedi 20, on recevait enfin un premier message cohérent de sa part. Pour le moment, il ne contient que des données techniques sur le fonctionnement de l'engin. Mais dans les semaines qui viennent, la même solution doit être appliquée à d'autres parties du code affecté afin de permettre à la sonde de nous transmettre à nouveau les données scientifiques sur son environnement.
Un autre sauvetage à distance avec le dégivrage réussi pour Euclide ?
Voilà, la dernière fois, j'avais évoqué le problème rencontré par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec son télescope spatial Euclide, lancé le 1er juillet dernier et destiné à cartographier de manière très précise des milliards de galaxies afin de faire progresser nos connaissances cosmologiques, notamment en ce qui concerne les notions encore inexpliquées de matière noire et d'énergie sombre. Depuis novembre, il nous envoyait des images un peu floues, incompatibles avec la précision requise pour sa mission scientifique, et on avait déterminé que c'était dû au dépôt d'une couche de givre très fine, quelque part sur le chemin optique, comme on appelle le trajet de la lumière, du miroir principal jusqu'aux instruments. Et j'avais donc indiqué que l'ESA, avant de se résoudre à la solution extrême consistant à réchauffer tout l'engin, avait commencé par chauffer les miroirs du télescope, faisant passer doucement leur température de moins 140 degrés à moins 3 degrés, ce qui est suffisant dans l'espace pour sublimer la glace, c'est-à-dire à la faire passer à l'état de vapeur d'eau. Sur cette info, je n'ai pas été très chanceux avec le calendrier, car dès le lendemain de la chronique, l'ESA annonçait que la manœuvre avait réussi, puisqu'en élevant la température du miroir principal de seulement 34 degrés, donc autour de moins 100, Euclide avait retrouvé la vue et pouvait reprendre sa mission de cartographie très précise.
Et dans le domaine de la cosmologie, plusieurs interrogations se sont renforcées ces dernières semaines ?
Effectivement, alors que les astrophysiciens essaient de résoudre certaines questions qui restent posées par notre modèle cosmologique, pour faire simple ce qu'on appelle le Big Bang, avec par exemple la mission Euclide, plusieurs annonces récentes semblent indiquer des problèmes de plus en plus sérieux avec cette théorie. Il y a eu une étude publiée en novembre dernier qui vient aggraver les écarts dans la mesure de la constante de Hubble. Je ne donne pas tout de suite des explications détaillées de ce concept car j'y reviendrai dans la deuxième partie de la chronique. Il s'agit de mesurer la vitesse d'expansion d'univers, ce qui est déjà assez difficile, mais où cela se corse, c'est qu'on a deux méthodes pour le faire. L'une d'elles consiste à la déduire de l'observation de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, une sorte de rayonnement fossile du début de l'univers, découvert par hasard dans les années 1960. Elle donne une valeur d'environ 67 km par seconde et par mégaparsec. Alors je sais que cette unité est barbare, elle ne dit rien à nos auditeurs, mais c'est au fond assez simple à comprendre. Cela veut dire qu'un cube d'univers d'environ 3 millions d'années-lumière de côté s'agrandit de 60 km chaque seconde. La seconde méthode pour mesurer la constante de Hubble utilise ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire des sources de lumière dont on connaît parfaitement la luminosité, qui peuvent être des étoiles variables appelées céphéides pour les galaxies assez proches ou des supernovae pour certains types de galaxies plus lointaines. Et cette méthode donne une valeur d'environ 73. Pour le commun des mortels, cet écart entre 67 d'un côté et 73 de l'autre peut paraître assez faible, mais pour les scientifiques, il est très embêtant. Car même en prenant en compte les marges d'erreur de chacune des méthodes, ces deux mesures, qui pouvaient être compatibles au début des années 2000, où les marges d'erreur étaient plus larges, sont devenues aujourd'hui incompatibles, avec des méthodes qui se sont raffinées et on ne voit pas ce qui cloche. Aujourd'hui, cette incohérence des deux mesures n'a aucune explication. Et bien entendu, la valeur de la constante de Hubble joue un rôle très important dans notre modèle de Big Bang, ne serait-ce que pour déterminer l'âge de l'univers, qui varierait entre 13,7 milliards d'années et 14,8 milliards d'années, suivant que l'on retient l'une ou l'autre des valeurs. Et le fossé entre les deux s'est aggravé suite à la publication d'une nouvelle étude en novembre qui a rectifié une valeur en prenant en compte les effets locaux de la gravité engendrée par le super ensemble de plus de 8000 galaxies dont nous faisons partie, baptisé l'Aniakea, et découvert en 2014 par une équipe internationale dont faisait partie Hélène Courtois de l'Université de Lyon. En tenant compte de cet effet, l'écart s'élargit encore un peu, puisque la mesure basée sur les chandelles standards passerait de 73,1 à 73,4.
Mais ce n'est pas le seul problème posé par notre modèle cosmologique actuel ?
Alors, comme je l'ai dit très rapidement, les mesures effectuées par le télescope spatial Euclide visent à mieux comprendre deux concepts assez mystérieux, de la matière noire et de l'énergie sombre. Mais dans ce domaine, ce n'est pas la seule expérience en cours. Il y a aussi un programme mené par l'observatoire de Kitt Peak en Arizona, baptisé DESI pour Dark Energy Spectroscopic Instrument, soit en français instrument spectroscopique pour l'énergie sombre. Son principe consiste à faire comme Euclide une cartographie très précise des galaxies en 3D, car mesurant leur distance par spectroscopie. Au final, sur environ un tiers de la voûte céleste au terme de 3 ans d'observation. Et pour mesurer des millions de galaxies dans ce délai, le dispositif est une véritable prouesse technologique avec 5000 fibres optiques qui peuvent être placées très précisément par un robot pour mesurer individuellement chacune une galaxie dans l'image produite par le télescope de 4 mètres de diamètre. Avec cette technique, il était possible de mesurer jusqu'à 200 000 galaxies en une seule nuit. Le 4 avril dernier, Michael Levy, directeur du programme DESY et chercheur du département de l'énergie au laboratoire de Berkeley, a annoncé la publication des données correspondant à la première année de mesure, portant sur 6 millions de galaxies jusqu'à une distance de 11 milliards d'années-lumière. Et elle semble indiquer un écart par rapport au modèle standard du Big Bang. Le principe est d'identifier des structures dans la répartition des galaxies correspondant à des sortes de bulles qui se seraient formées au tout début de l'univers et qui n'auraient cessé de croître entre elles depuis sous l'effet de l'expansion. Comme en astronomie, plus on regarde loin, plus on regarde loin dans le passé, le temps que la lumière met à nous parvenir, un relevé en 3D comme DESY peut mettre en évidence l'accroissement de ces tailles de structures à différentes distances de nous, donc à différentes époques. Et ce que semble montrer cette première année de mesure, c'est qu'au lieu de se développer bien régulièrement, cette expansion de l'univers aurait connu des fluctuations que pour le moment on ne s'explique pas. Mais ce résultat reste partiel et doit être confirmé à l'issue des 2 années supplémentaires d'observation de DESY, qui augmentera très sensiblement le nombre de galaxies étudiées, donc la précision des mesures.
Et notre deuxième sujet ou thème est donc le côté obscur de l'univers.
Alors je me suis permis ce petit clin d'œil à Star Wars pour évoquer les concepts mystérieux de notre modèle cosmologique, la matière noire et l'énergie sombre, car on vient de voir qu'ils sont au cœur des préoccupations actuelles des astrophysiciens travaillant dans ce domaine et motivent de grands programmes d'observation comme DESY ou Euclide que nous venons d'évoquer. Je pense donc utile de rappeler à nos auditeurs d'où viennent ces concepts et en quoi ils consistent, même si aujourd'hui ils échappent encore à nos investigations. Pour ce qui concerne la matière noire, il n'est pas besoin de connaissances très complexes et récentes, car pour la comprendre, il suffit des bonnes vieilles lois de Kepler sur le mouvement des planètes autour du Soleil, publiées par l'astronome allemand en 1609, puis leur expression mathématique par la théorie de la gravitation universelle de Newton en 1687. Pour faire simple, la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs, nous dit que plus une planète est près du Soleil, plus elle avance vite sur son orbite. C'est ainsi que l'on peut constater, sur un simple calendrier des postes, que la Terre, qui passe au plus près du Soleil vers le 4 janvier chaque année, met quelques jours de moins à passer de l'équinoxe d'automne de septembre à celui du printemps en mars, que pour effectuer l'autre moitié de sa révolution durant le printemps et l'été. Cette loi permet aussi la comparaison des mouvements des planètes entre elles. Plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle se déplace vite sur son orbite, qui est aussi bien plus grande. C'est ainsi que Mars met environ 2 fois plus de temps que la Terre pour effectuer sa révolution autour du Soleil, en étant environ 1,5 fois plus éloigné. Alors qu'à l'inverse, Vénus, environ 1/3 plus près du Soleil que nous, parcourt son orbite en seulement 7 mois. Généralisé à tous les systèmes mettant en œuvre la gravité de base, je dirais, pour simplifier, ce modèle permet d'étudier de nombreux autres mouvements dans l'univers à différentes échelles, de la révolution des étoiles doubles ou multiples l'une autour de l'autre, la rotation des galaxies contenant des milliards d'étoiles, jusque même au mouvement des galaxies elles-mêmes au sein des amas, où elles sont regroupées par dizaines ou centaines. Mais malheureusement, il y a quelques petites anomalies.
Les équations de Newton ne fonctionnent pas toujours ?
Et non. En 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky étudie un amas de galaxies dans la constellation de la chevelure de Bérénice. En effet, la gravité fait aussi que les galaxies proches s'attirent mutuellement et restent regroupées dans ces grands ensembles nommés amas de galaxies. En étudiant d'une part la masse de ces galaxies, qu'il peut déduire de leur luminosité, car elles sont surtout constituées d'étoiles, et d'autre part leur vitesse de déplacement, il constate qu'il y a une incohérence très grande, car tout se passe comme si la masse totale de l'amas était environ 400 fois celle des galaxies qui la composent. Même en tenant compte des marges d'erreur de ces mesures et en faisant différentes hypothèses sur les objets sombres qu'il faudrait ajouter à la masse estimée des étoiles, comme les planètes et leurs satellites par exemple, ils n'arrivent pas à expliquer un tel écart. Mais ce problème ne passionne pas les astronomes de l'époque. Il refait surface dans les années 1970, quand des mesures sont faites sur les vitesses de rotation des grandes galaxies spirales par l'astronome américaine Vera Rubin, disparue en 2016 et dont on a donné le nom à un grand télescope américain en cours de construction au Chili. Comme pour les planètes autour du Soleil, il y a un lien entre la vitesse de rotation des étoiles et leur distance au centre de la galaxie. Or, les mesures faites sur les galaxies sont complètement incohérentes par rapport à ce qu'on attendait. Les étoiles extérieures se déplacent beaucoup plus vite que prévu. Tout se passe comme s'il y avait une masse bien plus grande que ce que nous pouvons voir, cette fameuse matière noire, qui composerait dans les 90% de la masse de la galaxie, la matière visible n'en représentant que 10%. Ces observations ont été largement confirmées depuis, car on a pu constater différents effets de cette matière noire à grande échelle, notamment la façon dont elle dévie les rayons lumineux nous provenant de galaxies très lointaines, ce qu'on nomme l'anti-gravitationnel et que nous avons évoqué ici à de nombreuses reprises, par exemple à propos de certaines images fournies par le télescope spatial JWST. Aujourd'hui, on parvient dans certains cas à établir des cartes de répartition de cette matière noire dans des amas de galaxies et constater des effets bizarres, par exemple lors de la collision de deux amas, ce qui fait penser qu'il ne peut pas s'agir de matière ordinaire, qui serait simplement sombre et sous-estimée, mais que ce serait une forme de matière totalement différente de celle que nous connaissons. Il y a différentes hypothèses théoriques sur ce qu'elle pourrait être, notamment des particules que nous ne connaissons pas encore. Mais comme une de ses principales propriétés est d'interagir très peu avec la matière ordinaire, il est très difficile de la détecter. Il y a différentes expériences en cours, souvent dans des laboratoires souterrains, pour éliminer d'autres particules connues envoyées par le Soleil, comme l'expérience Edelweiss dans le tunnel routier du Fréjus, sous 1700 mètres de montagne. Mais pour le moment, on n'a aucun résultat probant. La matière noire reste donc un mystère.
Et pour l'énergie sombre ?
Comme pour la matière noire, c'est un concept théorique pour expliquer des observations incohérentes avec nos connaissances. Notre vision de l'univers est actuellement représentée par la théorie du Big Bang, issue notamment des observations de l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920, qui ont montré qu'à grande échelle, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et dans le cadre de la théorie de la relativité d'Einstein et de sa nouvelle théorie de la gravité venant compléter celle de Newton, cela s'explique par une dilatation de l'espace, comme l'a démontré le chanoine belge Georges Lemaître en 1927, à l'origine du concept de Big Bang. Pour cela représenter simplement, on peut imaginer que les galaxies sont des grains de raisin dans la pâte d'un cake qu'on met au four. Plus la pâte gonfle, donc l'espace se dilate, plus les raisins, donc les galaxies, s'éloignent les unes des autres, alors qu'en fait, ils ne se déplacent pas dans la pâte. Selon les observations de Hubble, cette expansion se ferait de manière constante, avec un taux fixe qu'on appelle constante de Hubble, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les tentatives de mesure qui donnent deux valeurs incohérentes. Mais la gravité qui fait que les galaxies et amas de galaxies s'attirent mutuellement ne peut que freiner cette expansion. À la fin des années 1990, deux équipes indépendantes ont voulu mesurer ce ralentissement. Une aux États-Unis sous la direction de Saul Perlmutter avec le Supernova Cosmology Project, l'autre en Australie avec Brian Schmidt et Adam Reis de l'équipe IZ Supernovae Search Team. Tous les trois ont reçu le prix Nobel de physique en 2011 pour leurs travaux. Leur méthode était la même. En observant des supernovas dans des galaxies très lointaines, donc dans un très lointain passé, puisqu'il a fallu très longtemps à la lumière pour nous parvenir, on pouvait à la fois calculer leur distance et leur vitesse de déplacement par rapport à nous. Et le résultat a été tout à fait surprenant, puisqu'au lieu de mesurer un ralentissement de l'expansion de l'univers, ils ont mis en évidence une accélération. La seule explication théorique était d'imaginer une force qui viendrait s'opposer à la gravité pour pousser l'expansion, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme elle nous est totalement inconnue, on l'a nommée énergie sombre, ou noire parfois, par analogie avec l'autre mystère que constitue la matière noire. Comme pour cette dernière, malgré différentes hypothèses théoriques, on ne sait absolument pas aujourd'hui de quoi il s'agit exactement. Et les programmes en cours comme DESY et Euclide visent à mieux caractériser ces effets en cartographiant très précisément des millions ou des milliards de galaxies afin de voir comment l'expansion a évolué au fil du temps, et cela permettra peut-être de sélectionner parmi les théories émergentes celles qui sont compatibles avec les observations et éliminer les autres, façon dont l'astronomie et plus généralement les sciences évoluent depuis toujours, avec un aller-retour permanent entre théorie et expérience, ou observation en astronomie, car nous sommes bien incapables de mener des expériences à l'échelle des étoiles, des galaxies ou de l'univers. On peut être sûr que dans les années qui viennent, nous progresserons dans notre connaissance de l'univers et de son évolution, comme nous ne l'avons pas fait depuis des décennies, et que probablement de nouvelles questions viendront à se poser, car il y a une constante dans l'histoire des sciences, de nouvelles connaissances soulèvent toujours de nouveaux problèmes à résoudre.
Et on va donc parler maintenant du ciel du mois.
Voilà, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web, hein, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, pour voir les cartes du ciel, c'est difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour mai d'ici le début de la semaine prochaine. Maintenant, arrivé au milieu du printemps, le jour est devenu bien plus long que la nuit. Et avec l'heure d'été, les observateurs du ciel nocturne doivent veiller de plus en plus tard. En ce moment, le soleil se couche un peu avant 21h et la nuit arrive vers 22h. Fin mai, ce sera encore plus tard avec le coucher vers 21h40 et la nuit vers 23h. En début de nuit, si on peut encore voir quelques constellations de l'hiver vers l'ouest, dont Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, sur le point de se coucher, ce sont celles du printemps qui occupent la plus grande partie du ciel, avec plein sud et bien haute, la figure bien reconnaissable du lion, juste sous les pattes de la grande ours, suivie par la Vierge, le Bouvier et la couronne boréale. Je rappelle que dans cette constellation en forme de demi-cercle, les astronomes guettent l'apparition d'une nova, une étoile dont la luminosité augmente considérablement, revenant tous les 80 ans environ, et qui ferait passer pendant quelques jours à 8 le nombre des étoiles visibles à l'œil nu dans cette figure. Juste un peu plus à l'est se lève déjà Hercule, suivi dans la nuit par les autres constellations de l'été, comme la Lyre et le Cygne. Fin mai, la voûte céleste sera bien décalée vers l'ouest, avec les constellations de l'hiver pratiquement disparues, sauf les Gémeaux sur le point de se coucher, en début de nuit, le Lion déjà demi-descendu au sud-ouest, la Vierge et le Bouvier au sud, et côté est, le fameux triangle de l'été sera déjà levé. Côté planète, il n'y a presque rien à dire pour le soir, car Jupiter est déjà très basse en début de nuit, se couchant ces jours-ci vers 22h20, et disparaîtra rapidement d'ici début mai. Et aucune des cinq planètes visibles à l'œil nu ne se montrera dans le ciel du soir les prochaines semaines. Pour les lève-tôt, on a Saturne qui se lève à l'est vers 5h30, suivi par Mars, mais cette planète est encore assez discrète, car nous sommes loin de sa prochaine opposition de janvier 2025, et elle n'est guère lumineuse, analogue aux étoiles brillantes qui dessinent les constellations, donc difficile à voir, basse dans les lueurs de l'aube. Au fil des jours, elle deviendra plus perceptible, reconnaissable à sa couleur orangée, car se levant de plus en plus tôt avant le soleil, vers 4h15 à la fin mai, et idem pour Saturne qui se lèvera vers 3h fin mai. Avec ce ciel pauvre en planète, il y aura peu de conjonctions observables avec la Lune qui, comme chaque mois, s'invitera près d'elle. Le samedi 4 mai, on pourra voir dans les lueurs de l'aube le croissant se lever proche de Saturne, avant le lendemain matin, dimanche 5, de s'approcher très près de Mars. Parfois, la Lune s'approche aussi d'étoiles particulièrement brillantes, et ce sera le cas de Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, le mercredi 15 mai, mais cette fois en soirée. Des conjonctions peuvent aussi survenir entre deux planètes, et cela se produira pour les très brillantes Jupiter et Vénus le jeudi 23 mai, mais comme je vous l'ai dit, ces planètes ne sont plus observables dans le ciel. Comme elles se trouvent proches du Soleil, ce phénomène pourrait être observé en ligne avec les images publiées presque en temps réel par le satellite d'observation solaire SOHO de la NASA, plus précisément avec son instrument à champ large baptisé LASCO C3. On trouve le site de SOHO très facilement avec un moteur de recherche. L'ISS, la Station Spatiale Internationale, recommencera à traverser le ciel en soirée à partir du 12 mai et presque jusqu'à la fin du mois. Je mettrai les horaires sur la page Ciel du mois de notre site web. Et du côté des lancements importants, on attend à partir du 6 mai le premier vol habité de la capsule Starliner de Boeing, concurrente du Crew Dragon de SpaceX pour le transport d'astronautes vers l'ISS. Et pour le déroulement du programme lunaire Artemis, après un test partiel réussi d'allumage de ses moteurs fin mars, on s'attend à un nouvel essai du Starship de SpaceX dans le mois, même si à ce jour, aucune date précise n'est définie. Une petite annonce locale, JAL Astronomie organise une conférence publique et gratuite le vendredi 26 avril, donc après-demain, à 21h, salle MGDD à Martignas. Et ce sera sur le sujet « Le phénomène des éclipses ». Et enfin, en principe, notre prochaine chronique est prévue le mercredi 29 mai, où on reparlera peut-être du prochain lancement du Starship.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Lefavré, pour toutes ces informations.